De retour sur Choc FM, j'ai avec moi Eugénie Lambert, notre chroniqueuse. Bonjour Eugénie, comment vas-tu?
Bonjour Xavier, ça va très bien.
Alors Eugénie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ma chronique, c'est pas exactement de la politique internationale, c'est plus de la politique nationale. Ma chronique s'intitule « Violence faite aux femmes du 6 décembre 1989 à aujourd'hui ».
Très bien.
Donc, je voulais revenir donc, dans le cadre de la journée nationale de commémoration et d'action contre les violences faites aux femmes, qui a été introduite suite au massacre de l'école polytechnique de Montréal, où 14 femmes ont perdu la vie.
Oui.
J'aimerais donc revenir sur plusieurs points. Le premier, c'est donc ce qui s'est passé ce jour-là, l'attaque du 6 décembre 1989 et comment ça a tout changé. Ensuite, revenir sur les violences faites aux femmes aujourd'hui au Canada, où on est de ce combat contre les violences faites aux femmes. Et puis, m'intéresser particulièrement à ce qu'il se passe avec la communauté francophone ici à Toronto.
Très bien. On t'écoute, Eugénie.
Alors, sur l'attaque du 6 décembre 1989, ce 6 décembre, Marc Lépine pénètre dans l'enceinte de l'école polytechnique de Montréal au Québec. L'homme âgé de 25 ans ouvre le feu sur 28 personnes, tuant 14 d'entre elles, toutes des femmes, et en blessant 4 hommes et 10 femmes avant de se suicider. Les crimes ont été perpétrés en moins de 20 minutes et à l'aide d'une carabine obtenue légalement. Cet événement a profondément choqué le Québec et le Canada puisqu'il s'agissait d'une attaque anti-féministe. Avant de tirer et en entrant dans une classe d'ingénierie mécanique, il a d'ailleurs déclaré « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes ». Le massacre a donc remis sur la scène publique le mouvement pour le contrôle des armes à feu au Canada. Et les parents de l'une des victimes, qui étaient donc fortement impliqués dans le débat, avec quelques rescapés de la fusillade, leurs actions jointes ont mené à l'adoption en 1995 de la loi sur les armes à feu, le projet de loi C-68, qui met en place des mesures plus strictes relatives aux armes présentes sur le territoire canadien. Alors maintenant, sur les violences faites aux femmes au Canada, aujourd'hui, où en est-on? En 2010, on comptait 582 cas connus de femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada. Il faut savoir que les femmes autochtones, c'est la catégorie de femmes qui est le plus touchée par les violences ici au Canada. Au moins la moitié des femmes sont victimes d'un acte de violence sexuelle ou d'agression physique, et ce, avant l'âge de 16 ans. Et en moyenne, tous les 6 jours au Canada, une femme est tuée par son partenaire intime. Donc bien que au cours des 30 dernières années, il y ait eu de nettes améliorations dans la réponse du système pénal à la violence faite aux femmes, les données montrent que cette violence n'est souvent pas signalée à la police. Par exemple, selon l'OIG de 2009, moins du tiers des femmes victimes de violences conjugales ont signalé l'incident à la police. On note cependant que les violences conjugales semblent avoir diminué, ce qui est attribuable à l'amélioration de la situation des femmes en termes d'égalité sociale, autonomie financière, et puis donc une amélioration qui les rend dorénavant mieux en mesure de quitter plus tôt une relation marquée par la violence. Mmh. Mais alors, donc j'aimerais revenir aussi sur ce qu'est exactement la violence faite aux femmes pour comprendre exactement qui est concerné. Voici la définition des Nations Unies. Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin est causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Donc, en résumé, la violence peut être physique, sexuelle, émotionnelle ou verbale, économique ou financière, spirituelle, ou même ça peut se manifester comme du harcèlement criminel. Donc, par exemple, tout ce qu'on a vu avec le cyberbully, etc. Donc, la violence prend différentes formes. C'est pas que forcément des violences physiques et sexuelles, c'est aussi la violence mentale. Donc, je vais m'intéresser maintenant particulièrement à ce qu'il se passe avec la communauté francophone à Toronto. Vendredi dernier, c'était la journée nationale de commémoration et d'action contre les violences faites aux femmes, qui était donc commémoré aussi ici à Toronto. Pour l'occasion, le centre Oasis avait organisé une discussion avec des intervenants, invités à expliquer leurs fonctions, les services qu'ils proposent, et puis faire un bilan de la situation catastrophique actuelle. Parmi eux, donc, il y avait des membres du service d'aide à l'enfance, une avocate, des membres d'Oasis, un médecin généraliste, et puis des membres de la maison. La question phare de cette journée de commémoration, c'était de savoir comment sensibiliser la communauté 25 ans après le drame de Montréal. Donc la journée a commencé par la lecture d'une étude de cas abominable qui traitait du désespoir d'une mère immigrante lorsqu'elle constate que son compagnon abuse sexuellement de leur jeune enfant. Donc c'est une étude de cas révoltante parce que l'abuseur a gagné la garde de l'enfant en justice contre la mère qui, désespérée et dans la panique, n'a pas su où aller et à qui parler de cette situation avant de prendre des décisions. Et puis d'ailleurs, l'abuseur est toujours à l'heure actuelle avec son enfant. Mais cette histoire n'est pas un cas isolé puisqu'elles sont nombreuses à souffrir en silence et à ne pas savoir à quelle porte taper et à se retrouver coincées dans des situations traumatisantes. Les intervenants, oui.
Oui, je m'excuse. Comment peut-on faire justement pour que les femmes ne restent pas silencieuses? Parce que tu nous parlais que beaucoup de femmes, elles n'osent pas déclarer ces actes de violence. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour que justement ces femmes manifestent leur détresse?
Exactement. Alors en fait, c'est ce que disait notamment le représentant des services à l'enfance, c'est que on sous-estime souvent la souffrance psychologique. On parle beaucoup de violence physique, mais ça crée aussi une souffrance psychologique qui tétanise totalement ces mères. Donc l'important, c'est il y a plusieurs étapes. D'abord, évidemment, il faut en parler. Il faut en parler aux autres, que ça soit au travail ou à ses amis. Il faut absolument en parler et ne pas rester seul face à cette situation. Ensuite, on peut évidemment contacter la police et composer le 911, faire constater les abus chez un médecin généraliste, par exemple dans une walk-in clinic, qui va tout de suite alerter les services à l'enfance, parce qu'en fait, le médecin a un devoir de dénoncer et de reporter cette anomalie aux services de l'enfance dès qu'il le voit. Et puis, sinon, contacter les services de l'enfance et avoir recours à des services d'avocats.
On entend des histoires, un petit peu, on va dire des histoires d'horreur où la police choisit de ne pas intervenir si justement la femme ne porte pas de plainte. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, alors c'est malheureusement toujours le cas. Donc ce qui est conseillé, c'est pour le cas en tout cas des femmes francophones ici à Toronto, c'est de contacter directement les organismes tels que Oasis et La Maison qui vous mettront ensuite en contact. Avec des services d'avocats, plutôt que tout de suite de contacter un avocat dans la panique, ce qui va engendrer des frais considérables. Mieux vaut se diriger vers ces organismes. Et puis, pareil pour la police, là, dans l'étude de cas qui a été lue pendant la journée de commémoration, et on voit qu'il y a un vrai problème de justice. Déjà, la police qui était arrivée au domicile de la jeune femme parce qu'elle les avait appelées n'a pas voulu lui répondre parce qu'elle s'exprimait en français et que les services étaient faits en anglais. Du coup, il y a un vrai problème. La police devrait pouvoir, ou en tout cas, il devrait y avoir une personne qui puisse traduire pour être là. Et du coup, ils n'ont rien fait à ce sujet-là. Donc,
Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'une femme francophone qui fait un appel, est-ce qu'elle peut s'attendre à voir à l'autre bout du fil un francophone, une francophone pour communiquer?
Avec la police, je n'en suis pas sûre. Je sais que, en tout cas, les services d'aide à l'enfance ont expliqué qu'ils se battent pour cela, pour avoir des services aussi en français. Donc à voir dans le futur, mais justement, c'est quelque chose pour ce quoi il faut vraiment se battre.
Eh bien, je te remercie, Eugénie, pour cette chronique à nouveau. C'était Eugénie Lambert, notre chroniqueuse. On continue en musique sur Choc FM. Au revoir, Eugénie.
Au revoir.